du feu.
C'est interdit de fumer ici.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi.
C'est un monde qui bat en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous allez faire passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonjour, bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et donc, c'est bien Cannabis Circus, l'émission du cirque.
Voilà, comme tous les lundis soirs, depuis 23 ans, je crois.
Ouais, on va tous, avec quelques exceptions, mais beaucoup de lundis soirs depuis.
Voilà. Depuis longtemps. Donc, ce soir, au menu, au programme de l'émission de Cannabis Circus, donc encore pas mal d'actu au sujet du cannabis, quelques faits divers, quelques arrestations de jeunes gens.
Diverses petites choses, 4 mois pour 2 grammes, 4 mois pour 80 grammes, 6 mois pour 15 grammes.
Alors il y a un vieil article, je me suis
3 mois pour 115 grammes, bon, y a, voilà, on va regarder un petit peu
on
tout ça.
On n'essaiera pas de reparler de l'article du 30 mars.
Voilà. D'accord, bon,
je suis désolé, j'ai fait une petite erreur. Sinon, à Marseille, un Patrick Menucci, député PS, qui veut absolument relancer le débat sur la question de la dépénalisation du cannabis. On en parlera un petit peu. Quelqu'un de bien connu du cirque qui a eu des petits soucis avec la justice, dont on va parler aussi, Memory, Jean-Christophe.
Tout à fait.
Voilà.
On viendra un petit peu à tout ce qui se passe en France avec certaines qui réfléchissent à la bonne politique publique en manière de stupéfiant. Ça serait bien. Voilà. Et puis sinon, on ira faire un petit tour un petit peu à l'étranger, un petit peu en Californie, où ça sera peut-être le 5e ou plus le district de Columbia, donc le 5e État, à légaliser le cannabis récréatif. Il va y avoir un vote en novembre. Et puis sinon, on viendra sur d'autres choses, sur la Belgique, un petit peu avec un article assez intéressant sur la surpopulation carcérale, un truc sur Christiana avec le Danemark, et une démonstration imparable en faveur de la dépénalisation des stupéfiants. Voilà, et puis enfin, à la Colombie. Dans le dernier pays dont on parlera, où là aussi ils se reconvertissent, où ils ont légalisé le cannabis thérapeutique, et il y a tout un truc de reconversion des FARC et tout ça. Voilà, une politique assez progressive, toujours en Amérique du Sud, mais.
Alors, ce dont on ne parlera pas, parce que c'était pas possible d'avoir les articles en version numérique et de s'en servir pour ce soir, mais c'est le Nouvel Obs qui fait tout un dossier sur le cannabis, la légalisation, la dépénalisation. Ça dure plusieurs pages, c'est assez complet. Après, j'ai consulté le numéro là, de ce Nouvel Obs. C'est toujours un peu les mêmes qui s'expriment pour dire, pour qu'ont toujours les mêmes arguments aussi stupides les uns des autres. Donc bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, c'est quand même un gros dossier, et de plus en plus, on sent quand même les médias.
Ça tourne un peu très légèrement. C'est un marronnier qui pousse, quoi.
Voilà. Eh ben, on va vous parler de tout ça juste après une petite pause musicale.
Voilà. Et puis pour tous les anciens, pour les premières soirées qu'on a faites au Cirque Lyon.
On dit 1, on dit 2, on dit 3, on dit 4. Allez. Ça fout mal,
légalise là, légalise là. Mais qui ça? Mais qui ça? La Marie, la Marie, la Marie.
Et ouais, on vient de s'écouter Extrême Onction. Voilà, donc. Bah. Ouka. Donc, Extrême Onction. Hein, donc, c'est du très ancien. Hein, pour les anciens, pour les premières soirées du cirque. Voilà. C'était des groupes qui se sont produits avec nous. Donc, on attaque avec donc, notre revue de presse. Avec. Avec 4-5 petites brèves. Qui se sont passés ces derniers temps. L'un, c'est dans le Réveil Normand. Donc, bah, c'est évidemment Normandie, du côté de Lisieux. C'est un Franck, c'est Vimionastien, qui a été arrêté avec 2 grammes de résine de cannabis dans ses chaussettes. Voilà, il a déclaré en consommer depuis 25 ans et en être dépendant. Il a pris 4 mois d'emprisonnement conformément aux réquisitions du parquet, donc assez dur par là-haut. Un autre article de La Dépêche, là c'est Albi, pour 80 grammes de cannabis, il écope de 4 mois de prison ferme. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a divers problèmes. Et donc, c'est sa 3e convocation pour détention de stupéfiants. Donc, le tribunal correctionnel d'Albi est moins indulgent. Le procureur avait requis 1 an d'emprisonnement ferme. Et donc, finalement, donc, la personne a eu 4 mois de prison ferme et 14 mois avec sursis. Voilà, donc, le prévenu et son avocat se sont plaints des procédures judiciaires puisque il y a eu une perquisition chez lui qui a été faite par la gendarmerie le 19 mai pour sa possible participation à des actes de violence aggravée. Mais il a été innocenté sur ces faits, mais pendant la perquisition, les forces de l'ordre donc sont tombées sur les 80 grammes de résine de cannabis. Au début, cela a été classé sans suite. Et puis, dans un deuxième temps, le prévenu s'est vu notifier un mandat d'arrêt. Et donc, il a donc comparu le 30 juin. Donc, pas mal de temps après les faits. Voilà, donc pour quelqu'un qui était en réinsertion et qui travaillait, de retourner en prison n'est peut-être pas la meilleure façon de lui faire arrêter la drogue. Troisième article, c'est la voix du mort, ou troisième brève. Il a été, c'est Saïd, qui a été arrêté place Navarin par la BAC. Comme le jeune homme a pris la fuite, ben, la BAC l'a rattrapé et a trouvé sur lui 4 grammes de résine de cannabis et un sachet contenant 11 grammes. Voilà, avec un ancien casier judiciaire. Évidemment, il n'a pas eu beaucoup de chance. C'est interdit de continuer, lui dit le procureur ou le président. La procureure a demandé un travail d'intérêt général. Et ben, le tribunal a été beaucoup moins clément puisqu'il lui a mis une peine de 6 mois de prison ferme. Voilà. Après, une autre petite histoire bien classique de 3 jeunes copains qui dépannent leur copain. Voilà, on va dire comme ça. Bon, ils sont 3 pour 20 à 30 clients. Donc, pour le tribunal, bah, c'est plus que du dépannage, hein. Et même le dépannage est totalement interdit, hein, même la cession d'ailleurs. Voilà, c'est le même tarif que pour la vente, hein, au cas où vous l'ignoriez par rapport à la loi. Ils ont trouvé au total donc 115 grammes, hein, pour ce trafic. Ils ont trouvé des balances, etc. Donc, pour le tribunal, donc, vous ne vendez pas, vous dépannez, c'est la même chose. Le procureur requiert des peines de prison assorties d'un sursis et d'une mise à l'épreuve. Et au final, donc, ils ont tous les 3, donc, des peines avec sursis allant de 6 à 10 mois avec mise à l'épreuve de 2 ans. Ouais, un petit peu pour les petites brèves, hein, que on voit, c'est très hétérogène, les jugements d'un tribunal à l'autre. Et enfin, pour finir sur ces petits articles de brèves judiciaires, on va reparler de Jean-Christophe Méméry. Qui est un militant pour la dépénalisation, plutôt pour la légalisation, ça lui fera plus plaisir quand même. Donc, il a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois avec sursis. Des jours amende et 2 amendes à 90 euros. Donc, voilà. C'est à Lons-le-Saunier. Donc, Jean-Christophe va faire appel de la décision. On rappelle que plusieurs pieds de cannabis ont été saisis à son domicile.
Alors. Ça, c'est effectivement ce qui lui vaut les ennuis. À l'origine, il faut quand même rappeler que Jean-Christophe, il n'a jamais été arrêté en flagrant délit d'usage, de cession, de partage, de transport, de revente ou quoi que ce soit. Jean-Christophe, il avait un gros shop à Lons-le-Saunier il y a une dizaine d'années, un peu plus, 12-13 ans maintenant, on peut dire. Et en fait, c'est le procureur du coin là-bas, de Besançon, je crois, et la police locale qui était venue l'embêter, lui chercher des noises, en fait, dans sa boutique. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. Comme il travaillait dans ce magasin et qu'il en était le responsable, ils sont allés chez lui. Et comme c'est un cannabinophile, un pratiquant, effectivement, ils ont trouvé chez lui ce dont parle l'article du Progrès, là. Il a des enfants, Jean-Christophe. Il faut savoir que quand ça lui était arrivé, ils avaient placé ses gosses à l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Ouais, c'est quand même un cas assez dramatique.
Jean-Christophe, on voit le non-sens de cette politique.
Alors, il avait pu récupérer ses gosses, hein, tout ça, mais bon, il a dû fermer son magasin, donc son travail, il a perdu son travail. Il avait été obligé de fermer, pas parce qu'on l'a poursuivi, on l'a obligé. En fait, il a été obligé de fermer sa boutique parce que. Régulièrement, il était harcelé par la police qui venait juste poser son véhicule stationné devant son magasin. Et forcément, au bout d'un moment, ça fait fuir tous les clients. Et n'ayant plus de clients, il a été obligé de mettre un terme à son activité commerciale. Voilà l'histoire de Jean-Christophe. Mais en tout cas, était poursuivi pour ça, quoi. Il a été poursuivi parce que dans un cadre privé, chez lui, voilà, suite à savoir qu'il était directeur du magasin, responsable du magasin, bref. Voilà. Alors après, là, dans l'article, il parle d'autre chose parce qu'il parle d'une affaire qui remonte à, qui est beaucoup plus récente, hein, d'un contrôle sanguin, un test salivaire, pardon, mais qui avait été confirmé par un test sanguin parce que bon, c'était l'année dernière. Ce qui n'est plus obligatoire aujourd'hui avec la nouvelle loi, on vous le rappelle, hein, un deuxième test salivaire peut confirmer le premier test salivaire, plus besoin d'une confirmation par un test sanguin. Donc voilà, en 2015, il avait été contrôlé positif au cannabis avec un taux, nous dit-on, de 20 nanogrammes par millilitre de THC dans le sang. Puis après, il y avait une contre-expertise qui avait révélé que ce taux était plutôt de 10 nanogrammes par millilitre. Alors là, ça me fait marrer parce qu'après, ils mettent en parenthèse dans le progrès. En France, le seuil légal est de 1 nanogramme par millilitre.
Ça serait beau, mais c'est zéro.
Ça serait beau, c'est zéro. Voilà. Ils sont rigolos. En fait, c'est pas le seuil légal, un nanogramme, c'est le seuil technique. Mm. Voilà. Donc, dans le progrès, comme dans beaucoup de journaux, de la presse quotidienne régionale, souvent, des pseudo-journalistes qui connaissent pas grand chose. Donc durant son procès, c'était le 31 mai dernier. Bon bah, comme je vous disais, il avait raison. D'ailleurs, il s'était défendu tout acte de revente ou quoi que ce soit. Lui il revendiquait juste le droit de pouvoir cultiver du cannabis à domicile dans un cadre privé pour sa consommation sans causer de troubles à l'ordre public. Il a également assuré qu'il ne consommait plus de stupéfiants aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va suivre hein, parce que comme il fait appel, il y aura certainement. Plus.
Tout à fait. Voilà, dernière petite brève avant de repasser par une petite page musicale. Bernard Debré.
Un cultivateur de cannabis notoire et très. Avec de superbes idées, hein, parce qu'on vous rappelle que monsieur Debré, donc militant Les Républicains et membre de l'Académie de médecine, vous conseille, si vous cultivez du cannabis, d'injecter de l'ecstasy dans vos plantes. Pour fortifier celle-ci et lui donner une plus grande possibilité de floraison et de rendement.
Ah, c'était lui qui avait sorti ça ?
Ouais, c'est Bernard Debré. Ouais.
D'accord, donc là, bon, il a expliqué bien débile, comment il s'est fait livrer des champignons hallucinogènes, de la cocaïne et du cannabis.
Non content de trafiquer et de cultiver maladroitement du cannabis. En plus, il trafique et il achète. Mais. Alors, n'importe qui ferait comme lui, il se retrouvait en prison, hein, mais pas lui.
Tout à fait.
Ben, il est au-dessus des lois, ce monsieur.
C'est l'immunité parlementaire.
C'est quoi ça ? Non mais sérieux.
Ah.
Non mais non.
Bah si, les députés ont l'immunité parlementaire.
Oui, bah...
Mais il n'a même pas été inquiété. Hein.
Oui, voilà, il aurait pu avoir des voix, c'est loin, voilà, mais non, rien.
Donc, qu'est-ce qu'il a expliqué ? C'est qu'il était allé sur les Pays-Bas et qu'il a pu donc s'acheter de la drogue, dit-il, donc du cannabis sans tout. Et puis, il a même été.
Aller aux Pays-Bas, on s'en fout. Il était même sur le Darknet.
Sur le Darknet.
Il a fait des achats par
tout seul. Il a même acheté des bitcoins. Des bitcoins. Il explique qu'il s'est fait livrer un gramme de cocaïne donc pour 80 et quelques euros.
Alors bon.
Il y a 36 000 sites où on livrait de la cocaïne. Hein, donc il y en avait pas mal a priori.
De 30 à 36 000 sites, c'est plus qu'une fourchette, c'est un méga râteau là. Hein. Il les a tout fait, s'il a fait tous les 36 000 sites.
Non, je pense qu'il n'en a fait que quelques-uns.
Que 30
En plus, 36 000, je pense que c'est plus une façon de s'exprimer. Et donc, en fait, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, il a fait analyser donc, la cocaïne qui s'est fait livrer, et elle était quasiment pure.
Oh, en plus, ils vendent de la bonne coke.
En plus,
oh.
Voilà.
C'est pas normal.
Voilà, un petit peu ce que nous apprend... Debré, au moins.
Merci à monsieur Bernard Debré donc d'informer
les
lecteurs et les auditeurs de Cannabis Circus ce soir. Donc voilà, si grâce à monsieur Debré vous ne savez pas où trouver de la bonne cocaïne, Visiblement, c'est sur le Darknet. Alors, en fait, il a fait tout ça pas pour acheter de la coke et tout. En fait, ce qu'il veut, c'est sensibiliser le monde politique et l'opinion publique à ces facilités d'achat et d'acquisition de substances psychotropes interdites. Et donc, il s'est dit quand même, c'est pas possible, hein, on va faire analyser ces drogues, donc elles sont quasiment pures, comme tu as dit, et il veut, alors comme tu disais, tu parlais du Bitcoin, donc du Bitcoin, lui, il veut interdire le Bitcoin, et il allait demander une mission d'information parlementaire sur le sujet, pour que quand même tous ces gens irresponsables arrêtent d'aller en Hollande ou sur le Darknet acheter des substances interdites. Ça fait longtemps qu'on sait que sur le Darknet, on peut se procurer tout ça facilement. Bon, visiblement, lui, il débarque. Hein. Il vient d'apprendre que le meilleur moyen d'engraisser ses plants de cannabis, c'était d'injecter de l'ecstasy dans les racines aussi. Bon, voilà. Plein de bonnes idées, ce monsieur Debré.
Ouais. Allez, un petit coup de zik.
Sur le chemin aux courts accents, la nuit revient d'un pas tranquille. Entre mes frères de silence, où les gens m'ont abandonné, le soir n'a pas cessé. À être seul, on se surprend quand soudain un oiseau s'envole. Derrière cette huit sans poignet, la pluie n'a rien d'un doux chagrin. De ciel brouillé que les yeux au-dessus d'un joint. Et si opaque est l'illusion, je vois toujours se balancer mon petit nuage en carton. Où vont se cacher mes fusées? Libérez-moi. sur les champs, pied à pied l'herbe a résisté, l'épouvantail a cette chance qu'à l'humain il est famille.
Et ouais, bah c'était Libérez-moi de Sylvain Larquier. Et donc, bah on revient à notre petite revue de presse et avec un petit article de Ouest France, avec bah qui reprend en fait un peu, qui parle un peu de l'article de
l'Obs. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, où ils reprennent un petit peu ce que dit Le Guen, hein, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui bon, vous le savez, est à titre personnel contre la prohibition du cannabis. Il a essayé de... Quoi, il en a fait un petit peu l'écho. C'est...
À fin mai, bon. Il est sorti du bois comme ça.
Voilà, ouais, bon,
et maladroitement, il n'a... hors contexte, hors temps, enfin bon, bref.
Voilà, bon, bon, en tout cas...
bref.
En tout cas, il en a remis une petite couche dans l'Obs, a priori.
Pardon.
Et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a réaffirmé son opposition à toute légalisation ou dépénalisation.
À la, voilà. À la pas hérité de la vivacité intellectuelle de son père, celle-là, visiblement.
Voilà, parce que le cannabis n'est pas un produit récréatif anodin, mais une substance dont la dangerosité et les conséquences sanitaires sont probablement sous-estimées. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pas plus ou pas moins que l'alcool ou la nicotine. Voilà, donc, faudrait sortir de ce débat stérile et essayer de réfléchir à ce qu'a apporté la prohibition. Et on se rendu compte que les apports de la prohibition sont nuls. Et les contre-apports sont très importants entre le trafic organisé, les produits frelatés, etc., etc.
La corruption de l'Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants en France. Hein. Alors on va pas se gêner, on va en parler toutes les semaines, franchement. Voilà, puis la justice à Grenoble aussi, qui a l'air d'être dans une histoire de corruption marrante aussi. Donc, mais faut croire que ces gens qui sont contre un changement, moi j'en suis de plus en plus persuadé, hein, vivent de ce système et en profitent. Et ont tout intérêt à ce qu'il perdure. Touraine, Debré et consorts.
On va revenir là-dessus.
Ce sont les alliés les plus objectifs du crime organisé. Il faut le dire maintenant, ça.
Tout à fait. Y en a un, on va arriver très rapidement dessus, un Belge qui a écrit exactement ça en conclusion de son article. On va y arriver juste après avoir vite balayé cet article. Qui rappelle un petit peu la position de tout le monde. Hein, donc dans l'Obs, on retrouve ça. Et donc il y en a qui disent qu'il est complètement. Il est cependant très important de réfléchir à la bonne politique publique à adopter concernant sa consommation. Donc voilà. Donc c'est une question compliquée qui mérite d'être débattue dans un cadre plus serein que celui d'une campagne présidentielle. Donc si on n'en discute pas en campagne présidentielle, si chaque fois qu'il y a un débat à l'Assemblée, il est tué dans l'œuf par des Valls ou par des Hollande, je ne sais pas comment on s'en sortira. Voilà, donc il faut que ça soit un débat de la campagne présidentielle. Et un débat serein et intelligent, mais bon, peut-être difficile avec nos politiques.
Je crains que malheureusement, on ait du mal à avoir cette question-là dans le débat d'une manière digne, enfin, qu'il puisse y avoir un débat digne de ce nom pendant les présidentielles.
Bon, après,
Espérer quand même.
C'est un débat en tout cas qui a lieu un petit peu. Il y a des UDI comme Jean-Christophe Lagarde qui sont favorables à la légalisation du cannabis, donc qui vont à l'encontre de leur parti.
C'est toujours pareil.
Bon, les Républicains en général, eux, ils sont
contre, trouveras aussi parmi les Républicains quelques-uns brûlés, voilà, qui n'ont rien à perdre, rien à gagner.
Les écologistes, toujours pour la légalisation contrôlée. et ils évoquent, et il évoque une hypocrisie totale. Il rappelle donc le Stéphane Gatignon. Je connais beaucoup de quadragénaires qui fument, y compris des élus de la République, et qui refusent le moindre débat sur la question. Des noms, on lui demandera, mais bon, voilà. Pour ce petit article de Ouest France. Toujours côté politique, avant de, d'aller en Belgique, on va juste parler vite fait de la Californie. Donc on en avait eu vent, on en avait parlé quand il y avait l'initiative avait été lancée pour avoir les 402 000 signatures valides pour pouvoir faire un vote là-dessus. Donc a priori, ils les ont atteints et donc c'est un projet de législation autoriserait les personnes âgées de 21 ans. Ouais. Et plus, à détenir jusqu'à 28 grammes de marijuana pour un usage privé et de cultiver de la même façon jusqu'à 6 plants de cannabis.
Alors, on vous rappelle que dans l'État de Californie, c'est la deuxième tentative législative, en fait, pour faire légaliser le cannabis dans l'État. Parce que déjà, en 2008, ça avait été le cas pendant les élections pour faire élire Obama la première fois, là, en fait. Hein. Mm-hmm. Et... L'État s'était prononcé contre, c'était la proposition 19, qui avait échoué de peu, hein. Ça avait vraiment, c'était vraiment pas passé loin, et Schwarzenegger, qui était le gouverneur de l'État, avant de quitter son poste de gouverneur, même si la loi de légalisation n'était pas passée, avant de quitter son poste, il avait dépénalisé la possession du cannabis, et je crois de peu près toutes les drogues, quoi. Ce qui n'était encore pas le cas en Californie, hein. Il y avait un aspect légal au niveau du cannabis thérapeutique, mais d'un point de vue récréatif, le cannabis et d'autres substances étaient illégales et on pouvait être poursuivi même au sein de l'État de Californie, alors que là il y a quand même une dépénalisation, pas dire merci à Schwarzenegger, mais bon, c'était le moins qu'il puisse faire quand même, hein. En tout cas voilà, donc à partir du... Ben, ça sera en novembre, hein, quand il y aura les élections présidentielles.
Et il y a peut-être d'autres États d'ici là
qui
voteront, ouais, aussi là-dessus. Donc pour rappel, les quatre États qui ont déjà légalisé aux États-Unis... Au niveau récréatif, ce sont le Colorado, l'État de Washington, l'Oregon et l'Alaska, ainsi que le district de Columbia.
C'est-à-dire la ville de Washington, en fait. Hein.
Tout à fait, voilà. Donc on déjà, autorise déjà la consommation du cannabis à des fins récréatives. Et... Il faut, pour être exhaustif, il faut rappeler qu'il y a aussi l'Uruguay qui a légalisé le cannabis récréatif.
L'Uruguay étant un État à part entière et ne faisant pas partie des États-Unis, mais c'est
tout à fait.
Tu fais bien d'en parler.
Voilà. Alors là, c'est un article, qui est assez marrant dans le Vif Belgique.
Le vif.be,
ouais. Ouais, qui s'appelle "Sortons les pauvres et les drogués des prisons. Tout le monde y gagnera."
Alors, article assez court, assez concis et bien formulé quand même. Et donc, on va vous en lire une bonne partie du texte, pas l'intégralité. J'aime bien déjà le début. Sexe ! Point d'exclamation. J'ai écrit sexe, parce que si j'avais commencé par prison, vous ne m'auriez sans doute pas lu. C'est pourtant le naufrage pénitentiaire que la rentrée par la petite porte des gardiens n'a pas stoppé, qui me fait sortir de mes gonds. Merci à vous si vous lisez tout de même la suite. Ça commence bien, voilà. Donc, principale cause du naufrage, le lestage du bateau carcéral, du fait d'une surpopulation endémique. On punit de plus en plus, et quoi qu'on en pense, les juges cognent dur. La cause ? Bah, beaucoup de médias font croire que les gens réclament une répression sans quartier, et les gouvernants, comme les juges, le gobent du goût. Bah, du coup, on retrouve derrière les barreaux non seulement les monstres, les vauriens indécrottables et les brutes invétérés, qui... soit dit en passant, derrière les barreaux, ne sont peut-être même pas plus que 20% du total. Hein. Voilà. Mais on retrouve plutôt davantage des naufragés d'existence, des étrangers en perdition, des paumés, et puis la déferlante de ceux qui sont ramassés dans les filets de la sempiternelle lutte contre les drogues. S'y ajoutent les légions de gens soupçonnés ou accusés de tout et parfois n'importe quoi à qui on veut, et à qui on veut, sans même attendre le jugement, donner une séance tenante via la détention dite préventive une bonne leçon. La classe moyenne peine à saisir ce qu'on économise du côté de la sécu, on est forcé d'en injecter le double dans le système pénitentiaire et pénal de l'autre côté, en fait.
Eh oui, malheur aux pauvres.
Les premiers à se retrouver derrière les barreaux ne sont pas les caïds ou les malfaiteurs qu'on évoque dans les séries télévisées, mais les illettrés, les sans-papiers, les pauvres qui souvent marchent sur la corde raide et parfois chutent. Il arrive que la sévérité des peines qu'ils ont à subir ne soit liée qu'à leur absence ou à leurs défenses indigentes ou maladroites. Leur formation, souvent réduite à peu de choses, les marginalise. C'est pour eux que Victor Hugo a prêché, souvent dans le désert, la construction d'écoles qui devaient faire fermer les prisons. Mais ça fait des lustres qu'on ne construit plus gare d'école et quelques années en revanche qu'on fabrique de nouvelles prisons.
Oui, oui, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux slogan « Une école qui ouvre, c'est une prison qui ferme ».
Et on se demande si l'inverse n'est pas vrai aussi. La situation s'aggrave à mesure que la protection sociale se réduit comme peau de chagrin. Et la classe moyenne peine à saisir que ce qu'on économise du côté de la sécurité et de l'aide sociale, en excluant les bénéficiaires à tour de bras, on est forcé d'en injecter le double dans le système pénal et pénitentiaire. La discrimination fondée sur la fortune est prohibée. Pourtant, il n'y a pas d'endroit où elle est le plus honteusement spectaculaire que dans les palais de justice et les prisons.
Allez, je vais prendre la suite, comme à l'époque d'Al Capone. Donc, il fait un petit truc sur l'époque d'Al Capone, dont tout le monde se souvient, hein, grâce aux USA, grâce aux films, etc., où l'alcool, la prohibition de l'alcool est imposée en 1917, grâce notamment aux Ligues de Vertu. Et le constat d'échec fut vite fait, malgré toutes les polices sur le pied de guerre, ni la production, ni la vente, ni la consommation n'ont diminué. Ce fut par surcroît un désastre sanitaire et social, explosion du marché noir, diffusion de produits frelatés, prise en charge du trafic par les réseaux du crime organisé, etc. etc. Si bien qu'en 1933, le président Roosevelt mit fin à cette calamiteuse et inutile prohibition. On assiste à la même bérésina avec les drogues qui restent illicites. Les pays dont le régime est le plus répressif sont aussi ceux où la consommation est la plus forte, avec à la clé d'énormes dégâts sanitaires et sociaux du fait de la marginalisation et de la désociabilisation d'une partie de la jeunesse consommatrice. Récemment, l'Association française des médecins addictologues s'est prononcée pour la dépénalisation et la légalisation du cannabis. Des cohortes de policiers et de magistrats passent dans le camp des antiprohibitionnistes après avoir été des chasseurs de trafiquants.
Certes, les drogues sont un fléau, mais comme la réponse pénale et carcérale n'a rien jugulé, l'intelligence et la sagesse commandent de changer de cap. Le Portugal a dépénalisé les drogues depuis plus de 15 ans et n'envisage nullement de faire marche arrière. Des États américains comme le Colorado, l'État de Washington, au nord, l'Uruguay, au sud, ont légalisé le cannabis sans augmentation de la consommation. Beaucoup se frottent les mains et encaissent de plantureuses recettes fiscales. Même si elle doit s'accompagner de campagnes de prévention et de programmes médico-sociaux, la légalisation des drogues, outre qu'elle apportera une manne fiscale, déchargera les finances publiques de lourds fardeaux car la guerre est coûteuse. Et puis les juges et les policiers atteints ou menacés par le burn-out, pourront souffler, délester les prisons, évitera qu'elles accouchent de bêtes fauves, que les choses n'aient pas encore bougé et mystérieux, car à tout le moins pour le cannabis, il n'y a quasi plus contre la légalisation que les trafiquants et Bernard Debré, Marisol Touraine, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande, Manuel Valls, bref, tout un tas de gens incompétents.
À se demander
déjà,
si tous ces gens-là n'ont pas des relations avec le crime organisé.
Et l'OCRTIS, l'Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants, et son digne représentant François Thierry, qui a contribué à faire importer en France plusieurs dizaines de tonnes de cannabis pendant des années, mais qui n'est poursuivi par aucune police.
Bon, heureusement que les douaniers veillaient quand même.
Hein, oui, non, mais bon, il va pas se retrouver en prison pour corruption et trafic de drogue. Celui-ci va être muté dans une autre administration. Voilà, non, c'est scandaleux. Voilà.
Allez, on passe à l'actualité suivante.
Eh ben, suivante.
Sur Christiana, un petit peu au Danemark, pour les plus anciens.
Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de Christiana.
Oui, d'ailleurs, ils avaient essayé de... Il y avait eu des trucs, c'est vrai que... Ils voulaient le fermer, et a priori, Christiana tient toujours.
Peut-être un peu... raconter un petit peu ce que c'est que Christiana, je suis sûr que pas tout le monde sait.
Tout le monde ne connaît pas, c'est vrai que c'est un quartier de
Copenhague,
qui était une ancienne base militaire et qui au début a été...
Au début des années 70.
Voilà, a été investi par quelques hippies, on va dire, par quelques
anarchistes, et... Baba Cool et...
Voilà, donc c'était une zone, une free town, Christiana... Et longtemps, d'ailleurs, il y a eu des gros affrontements, parce que c'était vraiment un quartier anarchiste bien défendu, dans lequel il y a eu des batailles terribles entre les Black Blocs et et la police danoise.
Il n'y a pas des Hells Angels aussi, une histoire de Hells Angels.
Il y a eu différentes choses, voilà. Bon, ça a été comme quartier, justement, un petit peu... underground, on va dire, il s'y passait beaucoup de choses, des choses intéressantes, hein, des trucs culturels, et aussi à tout ce que un dark Christiana, on pourrait dire, où on pouvait y trouver à peu près tout et n'importe quoi.
Alors la Pusher Street,
voilà, donc c'est quand même donc un quartier qui est très connu, donc qui est maintenant institutionnalisé, 900 résidents y sont acceptés, donc des gens qui sont là depuis le début, donc finalement voilà, il y a eu des accords avec l'État, mais il y a quand même donc il y a 500 000 touristes par an qui vont dans ce quartier. Et puis il y a surtout donc ce que tu dis, la Pusher Street, un alignement de stands qui vendent de la weed.
Voilà, pusher c'est un dealer en anglais, un vendeur de drogue. Voilà, c'est pour ça la rue du deal, ça veut dire Pusher Street. Excuse-moi.
Merci. pour ce petit renseignement linguistique. Voilà, donc là, et donc on en reparle parce que justement, dernièrement, le 17 juin, une centaine de policiers ont effectué une descente dans ce quartier-là, et en particulier dans la Pusher Street, et donc ils ont arrêté évidemment quelques personnes. Mais par contre, ça c'est pas nouveau, hein, parce qu'il y en a toujours eu depuis des années. Depuis 71, c'est pas la première, il va bien y en avoir... une quarantaine, voire plusieurs centaines. Mais là, en fait, il y a deux choses qui ont été différentes cette fois. En premier lieu, la police s'est montrée très, très agressive en poursuivant les personnes présentes et distribuant quelques coups de matraque. Et deuxièmement, la réaction des personnalités danoises est principalement allée à l'encontre de cette descente. Entre autres, il y a le procureur principal de Copenhague qui pense personnellement que nous devrions légaliser la vente de cannabis car c'est un combat que nous ne pouvons pas gagner. Nous essayons de lutter contre depuis des années et ça ne nous a mené nulle part. Nous ne pouvons pas arrêter l'usage de cannabis en le mettant hors la loi. C'est très cher et très peu efficace. Donc on en revient à ce que disait notre précédent journaliste ou écrit, qui disait « La guerre est coûteuse, la guerre à la drogue est coûteuse », voilà, pour ceux qui en doutent, et les résultats sont nuls, surtout en matière de santé publique.
Alors là, à la fin de l'article, ça me fait penser un peu à la Suisse, en fait. En Suisse, hein, il y a des grosses villes qui essaient d'avancer pour ouvrir ou des cannabis social club, bref, faire un truc pour que dans les grandes villes, il y ait un système légal pour se procurer du cannabis. Et là, à Copenhague, donc, on voit que la ville de Copenhague fait pression sur le pouvoir politique
et sur le Parlement pour avoir l'autorisation.
Il y a un truc au niveau du cannabis.
Un programme pilote pour réguler le cannabis dans la ville.
Voilà. Et au moins, peut-être au niveau thérapeutique, parce qu'en toute fin d'article, on nous dit qu'il y a plutôt au mois de juin, il y avait une proposition qui avait été faite pour enclencher un programme pilote de 4 ans sur le cannabis médical. Donc voilà. Au Danemark, pardon. Ça va pas bien loin encore, mais ça va toujours plus loin que chez nous.
Oui, tout à fait, au moins ça bouge, il y a des idées.
J'aimerais bien savoir si là-bas ils ont un Bernard Debré qui raconte des idioties énormes comme lui, quoi.
Ouais, il doit y en avoir aussi, hein, là-bas.
Forcément, ouais. On a bien en Suisse, hein. C'est vrai qu'avec l'UDC ils sont bien lotis là-bas, mais je sais pas en Danemark. Bref, voilà pour Christiana, donc...
Allez, on a un petit peu de temps, on se passe une zik.
Bienvenue.
Ah, on l'avait bien aimé la semaine dernière. On a essayé de vous en repasser un petit coup cette soirée, ce soir, un petit morceau de Trans Goa.
Stav Kovacs, Just Ash.
Voilà. Donc, alors après cet article sur le Danemark, après cet article sur la Belgique, libérée, sortons les pauvres et les drogués des prisons, là c'est le nouveléconomiste.fr qui s'y colle, qui nous parle de la loi sur les drogues et qui nous dit une démonstration imparable en faveur de la dépénalisation des stupéfiants.
Et écoute, ça commence comme ça.
Ça commence bien, ouais, ça commence
la
fort.
La guerre contre la drogue est une idée idiote. La force et la peur n'en suppriment pas l'usage pour autant. Nous devrions décriminaliser la possession et l'utilisation personnelle des stupéfiants interdits tout en continuant à poursuivre les fournisseurs illégaux.
Ça, là, je suis moins d'accord déjà avec
mais ça, c'est la conclusion de la Société Royale pour la Santé Publique en Grande-Bretagne. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Ça change un petit peu de la nôtre.
Oui,
quoi,
mais finalement, ça se veut être assez punchy. En fait, c'est quoi? Il nous parle que de la légalisation, de la dépénalisation.
Oui, voilà, la dépénalisation et la proposition accrocheuse. C'est pas le top, mais bon, c'est déjà pas mal hein, par rapport à chez nous.
Oui, bien sûr.
Voilà, pour eux, on en fait un problème de droit et d'ordre public. Alors que normalement, ce serait un problème de santé publique. Voilà, il y a une erreur fondamentale de mettre les stupéfiants dans le problème de droit et d'ordre public.
Alors, j'aime bien ce qu'il dit aussi, c'est que en fait, si c'est un si c'est un problème de droit et donc d'ordre public, c'est bien parce que on en a décidé. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, c'est pas arrivé comme ça, quoi.
Tout à fait.
C'est une décision politique et sociale. À un moment donné, en France, le 31 décembre 1970, par exemple, mais plus largement avec la Convention unique sur les stupéfiants en 1961 à l'ONU, de là vient le problème, quoi.
Oui, tout à fait. Voilà. C'est une décision politique qui crée le problème de la drogue.
Et créée par des individus réactionnaires, racistes, Anslinger hein, aux États-Unis, bon, homophobes. Classiste, sexiste, bref, on peut tout mettre. Voilà, enfin, c'est parce que c'est ces gens-là. Hein,
on va y arriver un petit peu là-dessus. Voilà, donc pour lui, les seules stratégies qui seraient intelligentes, c'est de s'aligner sur les stratégies des produits légaux dangereux, comme l'alcool ou le tabac. Hein. Alors bon, l'alcool, 39 millions de consommateurs réguliers aux États-Unis, au Royaume-Uni. Tabac 9 millions de fumeurs, donc et elle, le tabac reste la principale cause de maladies évitables et de décès prématurés au Royaume-Uni. Donc bon, pour ça, c'est pas trop différente à la France. Voilà. Pour lui, ça signifie pas qu'il faut prohiber l'alcool ou le tabac. Au contraire, interdire une substance est nocif. Par exemple, donc, le Royaume-Uni dépense plus de 4 milliards de livres pour faire appliquer les lois sur les substances illicites. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. De l'argent foutu...
par la fenêtre.
Par la fenêtre. Donc, bon, après... bon, il y a aussi quelques... Il parle vaguement du crack et de l'héroïne, mais je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. C'est bon... Les plus gros problèmes avec ces substances, c'est parce qu'elles sont illégales. Voilà, les coûts des interdictions des drogues vont bien au-delà des choses, quoi, vont bien au-delà de.
Oui, tu t'es perdu là.
Bien au-delà, oui, je suis un petit peu perdu. Bref, en tout cas. Pour lui, c'est qu'il affirme qu'un nombre concordant de preuves et de. Montre que les sanctions pénales ne sont pas efficaces pour dissuader les utilisateurs. Voilà, donc il l'appelle aussi dit qu'il existe aussi des preuves troublantes que l'application des lois sur les stupéfiants est sujette aux préjugés raciaux. L'usage de stupéfiants interdits est plus faible chez les Noirs et les groupes ethniques minoritaires que dans les populations blanches. Pourtant, les Noirs sont 6 fois plus arrêtés et fouillés pour les drogues. Voilà, et enfin par rapport aux drogues, une enquête a révélé qu'un jeune sur 5 ne demande pas d'aide par crainte que cela soit inscrit à son casier judiciaire. Donc aucune façon de s'en sortir une fois qu'on a mis le doigt dedans ou si on a un problème avec, on peut se tourner vers aucune institution vu que c'est interdit. L'article rappelle aussi l'exemple du Portugal, donc qui a supprimé les sanctions pénales de la possession personnelle depuis maintenant 15 ans, ce qui a entraîné une baisse de 80% des décès dus aux stupéfiants. Voilà, une baisse de nouveaux cas du VIH et aussi une réduction des cas d'hépatite C et B. Voilà, au Portugal, la consommation de drogue est maintenant inférieure à la moyenne et aux coûts sociaux européens. Voilà, les coûts pour la santé et le système judiciaire ont notamment baissé de façon significative. Voilà, après, il s'en prend un petit peu au tabloïd du Royaume-Uni qui prennent une direction opposée et qui incitent le gouvernement à prendre une décision pareille de taper toujours, de prohiber. A priori, ça plaît aux médias, ça plaît aux tabloïds, et donc ils les accusent.
C'est toujours pareil, c'est les mêmes tabloïds dont s'était servi Anslinger pour faire prohiber la marijuana dans les années 30 aux États-Unis. Ce sont toujours ces mêmes tabloïds. En France, on n'en a pas, mais on pourrait même parler, je dirais, de la presse quotidienne régionale. En début d'émission, on a parlé de différents faits divers qui étaient tous relatés plus ou moins par la presse quotidienne régionale qui traite de ces cas sans aucun recul, sans aucune contextualisation, sans aucun esprit critique, sans même aucune connaissance réellement de la situation, du produit. Bref, voilà, on a un peu le même problème partout en fait. Hein, à partir du moment où on s'appuie sur ces médias-là, qui n'ont de médias et de sérieux que le nom, à mon avis, ben on reste avec une espèce de matraquage, de propagande stupide et irréelle en plus. Hein.
Voilà.
Voilà.
Voilà, donc au final, des ressources sont gaspillées entre autres en sanctions. Donc on sanctionne les gens au lieu de les aider. Il finit un petit peu comme il a commencé. La guerre contre la drogue est une idée idiote. La force et la peur ne peuvent pas anéantir leur utilisation. Raisonnablement, la société cherche à gérer les coûts sociaux de l'alcool et du tabac en régulant leur approvisionnement. Cette approche est non seulement valable pour les autres stupéfiants, mais elle est aussi la seule qui fait sens. La pénalisation est une terrible erreur. Pas parce que les stupéfiants sont inoffensifs, mais plutôt parce qu'ils sont nuisibles. Maîtriser le mal et promouvoir la santé sont en effet la seule approche saine.
Tout à fait.
Alors voilà, juste, après, on peut ne pas être d'accord avec lui sur la dangerosité réelle ou pas de tel ou tel produit, mais en tout cas, parler de dangerosité n'est pas le souci. C'est la prohibition qui est beaucoup plus dangereuse que les produits eux-mêmes.
Tout à fait. Et plus haut dans l'article, là, tu t'es un peu arrêté sur... il parlait du crack et de l'héroïne, justement. C'est très intéressant parce que... il dit comme ça, en fait, interdire une substance est nocif. Voilà, par exemple, chaque année, le Royaume-Uni dépense plus de 4 milliards de livres pour faire appliquer des lois sur les substances illicites. Et là, il parle des drogues qui sont a priori les plus dangereuses, donc les plus dures. Voilà, héroïne et crack. Il dit, voilà, les plus gros dégâts sont imputables à l'héroïne et au crack par leur contribution à la criminalité. C'est ainsi parce qu'ils sont illégaux. C'est ainsi parce que nous l'avons voulu. Mmh. Voilà. Et que même l'héroïne et même le crack, remis dans un contexte médicalisé et légal, on sort de cette spirale infernale. C'est ça qui est, je trouve que c'est intéressant qu'il utilise même ces arguments pour de telles substances, j'ai envie de dire. Extrêmement diabolisées et dangerosisées, je sais pas comment dire, mais bon. Voilà. On a encore 2 minutes.
Pour faire l'article sur la Colombie.
Ah ben oui, rapidement, juste pour dire que la Colombie donc, va devenir un nouveau fournisseur du cannabis thérapeutique. Par l'intermédiaire, je ne sais pas si c'est dit dans cet article, d'un labo canadien en fait, qui va aller en Colombie, voilà, qui va préparer une fabrique.
Tout ça, c'est dans le mouvement sud-américain pour la légalisation, hein, où ils travaillent. Et c'est grâce à eux, peut-être qu'à l'ONU, ça va vraiment en passer l'année prochaine. Et que, quoi, l'année prochaine
dans 4 ans.
Dans 4 ans, voilà.
Dans 3 ans. En 2019.
Et que peut-être ça va changer. Donc là, il va falloir être actif pour arriver à faire changer un petit peu les choses. Enfin, la Colombie aussi est en train de faire la paix avec les FARC. Et donc, ils pensent aussi à la légalisation pour recycler une partie des guérilleros dans la culture du chambre.
Voilà. Et je crois qu'on avait parlé de la Colombie aussi qui cherchait des débouchés pour la feuille de coca. Ou c'était la Bolivie plutôt.
C'était la Bolivie
avec Evo Morales. Ouais. Mais en tout cas, oui, à partir du moment où ils veulent sortir de la prohibition, ben forcément, il y a déjà plus de possibilités de créer une paix durable avec les FARC qui se finançaient par le trafic de drogue. Donc c'est sûr que si on change de paradigme, ben les FARC ne peuvent plus s'autofinancer et n'ont plus lieu d'être. Ou moins en tout cas. Enfin bon, ça va être différent.
Voilà, un petit peu. Donc la Colombie, ça bouge aussi. Un nouveau pays qui légalise le cannabis thérapeutique.
Voilà. Eh bien,
on donne les moyens.
On va s'arrêter là, puisque un chamboulement est en train d'arriver dans la cabine avec des DJ qui arrivent de toutes parts, qui sont en train de vous préparer une bonne deuxième partie de soirée. Voilà, c'est avec Chasseur de Son. Ça arrive tout de suite, bientôt. Juste pour terminer, avant de partir, vous rappeler que samedi 23 juillet, le Cirque Lion tiendra un stand à Arandas dans le Bugey, c'est dans l'Ain, de 20h à peu près jusqu'à 5h du matin. Je ne sais pas si nous on tiendra jusqu'à 5h, mais bon, c'est un festival musique reggae, s'appelle Gully Sound, que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet du Cirque Lion, www.cirque-lion.fr, et sur la page Facebook du Cirque Lion aussi, et même la page Facebook de Gully Sound également. Voilà, c'était Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, du collectif d'information de recherche cannabique de Lyon. Et ben maintenant, c'est Chasseur de Son. Il n'a pas l'air prêt, Chasseur de Son.
Ouais. Et ben,
des câbles.
Salut à tous.
Et à la semaine prochaine, en tout cas.
Et salut à tous les gars du budget.
Voilà, bonne soirée, merci, au revoir.